Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravéli Lemel. Rav Lemel, Shabbat Shalom et Chag Sameach.
En effet, Shabbat Shalom et Chag Sameach, puisqu'on arrive en effet sur Shavuot.
Et on va d'ailleurs consacrer notre émission à Shavuot. Shavuot, c'est le don de la Torah. On va d'ailleurs aller écouter les 10 commandements demain. Et les Chabad disent qu'il faut même emmener les bébés, tellement c'est important. Et bien justement, vous voulez nous parler de cet épisode. Par exemple, on a quelques informations sur comment s'est passé ce moment très secret, très mystérieux et forcément solitaire entre Moïse, Moshe Rabbeinu, et le Créateur qui lui donne les 10 commandements.
Alors c'est vrai qu'on a, un texte qui est très très connu dans la Gemara, dans le Shabbat, qui nous relate en effet l'ascension, tout ce qui s'est passé, mais il y a un moment, un événement assez curieux qui a lieu, c'est la rencontre que fait Moshe avec les Malachim, avec les anges. Alors les anges, bien sûr, on va mettre de côté notre imaginaire des anges avec des grandes ailes blanches. Un malach, c'est une énergie, c'est une force qui est là et qui remplit sa mission. Et le texte nous dit que lorsque Moshe se retrouve sur le Sinaï, les malachim arrivent, les anges arrivent et disent la chose suivante, « Maïeloud ishaze benenu. » Mais qu'est-ce que fait cet être humain parmi nous? Et Moshe là, et, il leur répond, il leur dit, « Bon, je suis venu chercher la Torah. » Et à ce moment-là, les malachim se tournent vers le créateur de l'univers et lui disent, « Remdak nousa, enfin, cette Torah tellement incroyable qui a précédé à l'univers, tu vas la donner à des êtres humains. » Alors, Moshe Rabbeinu est là et il est un peu embêté. Il se tourne vers Hachem et Hachem lui dit, « Réponds-leur. » Et donc, Moshe dit qu'il a peur de leur réaction. Hachem lui dit, « Attrape mon trône de gloire. » C'est encore tout un autre sujet, ça. Et puis, le dialogue s'engage. Le dialogue s'engage entre Moshe et les Malachim. Et ce dialogue, au fond, est très, a priori, très banal. Il leur dit, mais attendez, cette Torah aura du respect des parents. Auriez-vous pour être concerné par cette respect des parents? Et il va leur parler de tout ce qui a trait à la loi du Shabbat, enfin, toutes ces lois qui concernent l'humain. Et lorsqu'il leur dit cela, alors les malachim disent, ah oui, c'est vrai, tu peux aller et tu peux la prendre et tu peux la redescendre sur terre. Alors évidemment, ce dialogue un peu hallucinant nous ouvre déjà une question basique. Serait-ce à dire que les malachim, que les anges, sont en train de se battre pour une Torah qu'ils ignorent? Comme si au fond, Moshe était en train de leur faire découvrir, ah oui, vous voulez garder la Torah, mais vous savez que dans cette Torah, on parle de respect des parents et les malachim sont là, ah oui, c'est vrai. Évidemment qu'il ne s'agit absolument pas de cela. Tout d'abord, il faut bien comprendre que la Torah, c'est une succession de lettres, ce sont tous les éléments qui permettent à l'univers d'exister, qu'il y en a évidemment des lectures innombrables, mais là on parle de cette Torah que nous recevons avec ces mots. Et qu'est-ce que les anges au fond veulent savoir? Ils veulent savoir qu'est-ce que Moshe est venu chercher. Est-ce qu'il est venu chercher une Torah de concepts, d'idées, de philosophie, de pensée juive, ou une Torah qui va permettre à l'individu, à l'humain, au clan d'Israël de savoir comment évoluer dans l'histoire, comment servir le Créateur de l'univers? Car en effet, si cette Torah n'est qu'une succession de concepts, d'idées philosophiques, alors c'est passionnant, mais c'est pas ça la Torah que l'humain doit recevoir. Il doit recevoir une Torah qui lui apprend justement à savoir comment respecter ses parents, l'importance du Shabbat, la valeur et l'importance des mitzvot. Et c'est ce que Moshe leur dit. Moshe leur dit, voilà, c'est ça que je suis venu chercher. Et à ce moment-là, les malachim disent, si c'est ça, alors tu peux la récupérer. Et c'est intéressant parce que il y a un texte du Talmud, plusieurs même, mais je voudrais déjà en citer un, qui nous renvoie bien à cette idée de l'importance de l'action. Il y a en effet une discussion pour savoir qu'est-ce qui est le plus important. l'étude ou l'action. Et les maîtres discutent et puis ils disent, voilà la conclusion. Gadol Alimoud, grande est l'étude car elle amène à l'action. Alors évidemment, donc c'est pas l'étude qui est plus grande puisque tu es en train de me dire que l'étude, c'est ce qui a le plus de valeur car elle amène vers quelque chose qui s'appelle l'action. Donc faut croire que c'est l'action qui a la valeur la plus importante. Et en vérité, c'est pas du tout ça. L'explication, elle est très simple. Chez Mévi, lorsqu'elle amène à l'action, c'est-à-dire lorsque celle-ci n'est que le préambule dans le monde et n'est pas juste quelque chose qui se développe en tant que tel et puis après on s'arrête. Et d'ailleurs, ça nous permet de mieux comprendre un texte qui est très très bouleversant de la Gemara qui nous dit « Kol Talmid Chacham, tout sage, Talmid Chacham, élève sage, personne en tout cas qui a des connaissances, chez En Bo Da'at, l'on appelle du da'at, et on va expliquer tout de suite de quoi il s'agit, nevela, tovei memenu. Là, le cadavre d'un animal qui est en train de se décomposer dans un champ a plus de valeur que lui. Alors, de quoi s'agit-il? Vous savez que la première des choses qu'on demande tous les jours dans la prière de la Shmona Esrei, eh bien, on demande deux choses, da'at et bina. Avant toute chose, on demande cela, avant de demander la santé, la parnassa, tout ce que vous voulez. On demande d'abord da'at et bina. Bina, c'est quoi? C'est la capacité de faire preuve de discernement. Au fond, de penser sa vie en regardant où sont les priorités, où est l'essentiel, où est l'accessoire, savoir faire preuve de discernement. Mais da'at, cette chose qu'on demande à tachonen la dame da'at, ba'uchata shem chonen da'at, tu donnes à l'individu da'at. Da'at, disent nos maîtres, c'est la capacité que l'individu a de réduire le delta entre les connaissances qu'il possède, les convictions qu'il habite et la manière dont il est capable de les traduire dans le monde du réel. Au fond, tout l'enjeu, c'est quoi? C'est d'être capable de se dire, mais ce savoir, cette connaissance, cette conviction, est-ce que je suis capable de le traduire dans la réalité de mon quotidien? Est-ce que c'est quelque chose que je suis prêt à mettre en place? Alors évidemment, si on demande cela, c'est parce que c'est quelque chose, en effet, qui n'est pas simple. En effet, il y a certaines choses de ce qui sont nos convictions, qui sont en phase, j'ai envie de dire quasiment à 100% avec notre réalité quotidienne. Et puis nous avons d'autres convictions, mais nous n'avons pas encore réussi à les mettre pleinement en phase avec notre réalité quotidienne. Je vais prendre un exemple tellement simple et tellement banal. On est tous profondément convaincus de l'importance de l'harmonie dans le couple. On est tous profondément convaincus de la nécessité d'être à l'écoute de son conjoint. On est capable même de donner des cours ou d'en écouter des dizaines. Mais est-ce qu'on arrive à le faire au quotidien? C'est tout un autre travail. Da'at, c'est ce désir, c'est cette envie de faire en telle sorte que ce delta qui existe, cette séparation qui existe entre ces choses que l'on connaît, dont on est convaincu, puisse s'inscrire, eh bien, que ce delta soit le moins grand possible, que l'on puisse inscrire ses convictions dans la réalité d'un quotidien. Et c'est ça qu'on demande. Et la Gemara nous dit, « Kol Talmid Chacham Shen Bo Da'at » Un Talmid Chacham, quelqu'un qui aurait des connaissances, mais qui n'a pas cette notion, c'est-à-dire qui ne tend pas à mettre en adéquation son savoir et ses convictions avec sa réalité quotidienne, Nevela Tova Emenu. Quelque part, sa parole ne représente pas grand-chose. Pourquoi? Parce que elle n'est pas en phase. Alors bien sûr, vous allez dire, mais qui est en phase? Personne, en tout cas, moi sûrement pas. Mais est-ce qu'on a au moins le désir? Est-ce qu'on en a envie? C'est d'ailleurs ce que le Hafetz Chaim dit dans un de ses ouvrages. Le Hafetz Chaim dit que ce qui est important, c'est que l'individu sache qu'il n'a qu'une envie. C'est que sa vie soit le plus en phase avec les convictions et le savoir qu'il possède et essayer au quotidien de progresser dans ce domaine. Dans certains domaines, c'est plus simple. Dans d'autres domaines, c'est plus complexe. C'est pour ça qu'on demande ça tous les jours dans la tefila, parce qu'on sait très bien que c'est un effort du quotidien. Et donc, on comprend mieux. Les malachim disent à Moshe, qu'est-ce que tu es venu chercher? Si c'est juste une connaissance, si c'est juste un savoir, si c'est juste une philosophie, alors la Torah, elle reste là-haut. La Torah n'a pas besoin de descendre chez l'humain si elle n'est pas là pour le transformer, si elle n'est pas là pour l'habiter dans son quotidien. Comme Moshe Rabbeinu leur dit, non, ce que je suis venu chercher, c'est la Torah qui va nous amener à savoir mieux respecter nos parents. C'est une Torah qui va nous aider à travers le Shabbat à mieux comprendre l'importance de ce que veut dire la relation à Dieu. Si, en effet, c'est ça que tu veux chercher, disent les Malachim, alors évidemment la Torah est là, et elle est pour l'humanité, elle est pour le clan d'Israël, pour qu'il la vive et qu'il la diffuse et qu'il fasse en telle sorte qu'elle habite l'univers entier. Voilà donc quelques éléments qui nous permettent de percevoir de très loin une des choses qui s'est jouée lorsque Moshe Rabbeinu était sur le Sinaï. À nous de savoir que si la Torah nous l'avons reçue, c'est parce que Moshe a su expliquer à quoi elle allait servir, et donc à nous évidemment de le mettre en place dans notre réalité quotidienne.
Moi je crois que ce que vous avez illustré, c'est l'idée de faire des choix. Avoir la connaissance, comme vous l'expliquez, c'est chaque instant, en fait. Je vais lui sourire à lui, je vais prendre du temps sur ça, je vais faire autre chose, je vais prendre ça comme priorité. C'est faire des choix. Et je crois que peut-être que c'est l'une des raisons, en vous écoutant, hein, je pense, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on commence par ça dans la prière. C'est parce qu'il y a des gens qui ne font pas de choix, même dans les couples. Et est-ce que c'est mieux sous prétexte de refuser la confrontation d'idées, hein, je ne sais pas. Est-ce que c'est mieux de ne pas faire de choix? J'ai l'impression que c'est ça que vous êtes en train de nous dire, faire des choix.
Alors, c'est faire le choix de mettre en application ce à quoi on croit, ce dont on est convaincu, ce que l'on a appris. Maintenant, évidemment, toute la difficulté, c'est que faire un choix, c'est, dans un second temps, élaborer les choses de manière concrète. Et parfois, on a besoin d'aide pour savoir comment on doit les mettre en place de manière concrète, surtout dans les relations humaines. Mais ce qui est important, c'est ce choix premier. Et ce choix premier, c'est est-ce que j'ai envie de vivre le savoir que je possède? Est-ce que j'ai envie de le mettre en place dans ma vie? À partir du moment où ce choix, il est clair, après, évidemment, c'est une succession de moments qui vont nous permettre de le mettre en application.
Amen. Rav Eli Lemel, je vous remercie. Je vous souhaite un beau Shabbat et de belles fêtes. Je sais que vous allez beaucoup étudier à partir de... Enfin, vous étudiez tout le temps, mais je sais que ça va être particulièrement intense à partir de dimanche. Je vous souhaite Shabbat Shalom et Chag Sameach.
Shabbat Shalom et Chag Sameach.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai.
Bonsoir, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom et Chag Sameach.
Chag Sameach, bien entendu, Shavuot dans quelques jours. Il nous reste encore 2-3 jours pour
nous préparer. 2-3 jours avant de découvrir ce bon moment où on en profite pour manger des choses lactées, essayer de découvrir de nouvelles saveurs. Rav Mordechai, vous voulez, évidemment, dans le cadre de notre émission spéciale sur Shavuot, vous voulez parler du don de la Torah, mais avec un angle particulier, c'est que la Torah, c'est une révolution pour l'humanité, avec des règles révolutionnaires, et avec des règles qui sont des changements radicaux. Donc c'est sur ça que vous nous invitez à réfléchir ce soir.
Absolument, parce que finalement, le don de la Torah à un peuple qui va être le porteur de ce message dans l'humanité, c'est finalement une figure de rupture. Jusqu'à présent, les nations du monde, ou jusqu'au don de la Torah, les nations du monde étaient enfoncées dans l'idolâtrie. Et voilà que naît une nation qui parle d'un Dieu qui ne se voit pas, comme les idoles. Les idoles se voient, mais lui, il ne se voit pas. Un Dieu qui s'entend, mais qui ne parle pas en permanence aux hommes. Nachmanide va dire le don de la Torah sera lu qu'une fois dans l'histoire de l'humanité. On ne peut pas à chaque fois, pour les sceptiques ou les gens qui ne veulent rien entendre, refaire le don de la Torah chaque année. Et donc on parle d'un Dieu qui est là. Le peuple juif va parler d'un Dieu qui est là, qui nous donne une loi qu'il faut respecter, qui guide le monde et qui imprègne le monde et qui en même temps n'a pas la figure d'une idole. Il n'a pas la figure d'image. D'ailleurs, dans les premiers commandements, ce Dieu dit on ne fait pas d'image. Il n'y a pas d'image du bon Dieu. Pas de matérialisation du bon Dieu. Et en fait, c'est ça la première figure de radicalité, il n'y a pas de réduction du spirituel. Parce que finalement, l'idolâtrie, c'est quoi? C'est la réduction du spirituel aux pulsions humaines, aux passions humaines qu'on va déifier. Là, ici, il n'y a aucune réduction. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de réduire Dieu lui-même, et même sa Torah, à des figures qui soient des figures immédiatement perceptibles pour un humain. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose ici qui est au-dessus de la perception humaine. Ça, c'est la première radicalité. La deuxième radicalité, c'est ce que dit Maïmonide et qui nous intéresse très directement aujourd'hui dans le contexte mental et même dans le contexte du débat philosophique avec l'islam. et avec d'une manière générale, avec toutes les religions, y compris la religion laïque, parce que c'est la religion française. Maïmonide va dire, jusqu'au don de la Torah, un homme rencontrait une femme dans la mondanité, et il se mettait en concubinage notoire avec elle, et c'est ainsi que les gens commerçaient charnellement. Et il dit non, à partir du moment où la Torah est donnée, il y a un processus. La relation entre l'homme et la femme est un processus qui va aboutir au mariage. Et le mariage, c'est un cadre dans lequel vont s'épanouir l'homme et la femme sur le plan de leur personnalité, de leur identité sexuelle, les hommes et les femmes. J'ai dit un gros mot, vous vous rendez compte, les identités sexuelles dans le wokisme et le dégenrage ambiant. Et en effet, parce que ce processus que décrit la Torah, c'est un processus qui va créer une structure qui s'appelle le mariage, à l'intérieur duquel l'homme et la femme s'épanouissent en tant qu'être humain, et en même temps, ils vont pouvoir avoir des enfants, et en même temps, ils vont bâtir une cellule qui est la cellule de base de la société humaine. Et elle va être très codifiée, cette cellule. Donc ça, c'est une deuxième figure de radicalité. C'est-à-dire que l'amour, le bonheur, la sexualité, l'épanouissement des identités sexuelles, l'épanouissement des individus se fait dans un cadre qui va sublimer, qui va porter des forces qui sont des forces créatrices très puissantes. La troisième figure de radicalité, c'est l'antisémitisme. Nos sages nous disent que la haine du juif est arrivée au moment du don de la Torah. La montagne ne s'appelait pas la montagne du Sinaï, elle s'appelait le Har Horev. Sinaï, ça se rattache au mot Sina, la haine. Et les nations du monde ont haï et détesté ce peuple juif qui a osé braver la normalité humaine. On ne se soumet pas à un dieu, on soumet le dieu à la volonté humaine. C'est l'idolâtrie. Et donc on se soumet à un dieu, et par cette soumission, on va accéder à des dimensions spirituelles qui sont des dimensions qui élèvent l'homme, qui le soulève. Et nos sages nous disent que l'antisémitisme et la haine du juif sont arrivés au moment où les juifs ont reçu la Torah au Mont Sinaï. La jalousie s'est installée. De quelle jalousie on parle? C'est tout simplement cette idée que finalement la Torah avait été proposée à l'ensemble de l'humanité, elle était disponible pour l'ensemble de l'humanité. Mais un peuple a fait ce pari fou d'accepter, avant même d'en avoir examiné tout le contenu, d'en avoir pénétré tout le contenu, il a accepté finalement cette loi comme règle absolue, ce qui est contre finalement la logique humaine. D'abord, on regarde la notice et ensuite, après, on discute. Là, c'est le contraire. On a eu une vague perception de ce qui nous est proposé et on l'a accepté dans tous ses détails avant même de les connaître. Il y a donc trois radicalités ici qui sont fondamentales. Et regardez la situation du peuple juif aujourd'hui. Le peuple juif aujourd'hui, depuis le 7 octobre, il fait massivement teshuva. Depuis la guerre de Kippour, il y a 50 ans, il fait massivement teshuva. Et qu'est-ce qu'il reconstruit, le peuple juif, dans cette teshuva? Il reconstruit ces trois figures de radicalité. C'est-à-dire la relation avec Dieu, la relation avec la loi. La loi qui est une loi transcendante, absolue, qui est une loi qui n'est pas un jouet entre les mains des modes et des hommes. Il reconstruit la famille. Le nœud de la discussion aujourd'hui entre l'islam et le monde occidental, c'est la famille. Parce que l'islam vient avec un projet humain, un projet familial et un projet social, un projet collectif. Et face à ça, l'Occident propose la liquéfaction des identités, y compris des identités sexuelles, c'est-à-dire la destruction totale de la famille. En Occident, on fait un enfant en France, on fait un enfant 1,5. Et c'est le nœud, parce que le judaïsme, lui, était là bien avant tout ce petit monde, et dit, la famille, c'est la base. Et le juif revient à la famille. Il se marie, il essaye de ne pas divorcer, il essaye de construire sa famille. Et la troisième chose, c'est la haine planétaire du juif aujourd'hui. L'État d'Israël aujourd'hui est devenu le juif des nations. Il occupe la place que les juifs occupaient avant la Shoah. Avant la Shoah, on accusait les juifs de crimes rituels et s'en suivait des pogroms effroyables. Aujourd'hui, on l'accuse de génocide, ce qui est faux, et s'en suivent de la haine et des pogroms qui sont absolument effroyables. Et cette haine, elle puise sa source dans le fait qu'au fond, la haine du juif, c'est la haine de Dieu. La haine du juif, c'est la haine de ce qu'il représente comme figure de radicalité dans l'attachement à Dieu et dans l'attachement au spirituel. Et il y a là un message très puissant pour ceux d'entre nous qui ne veulent pas l'entendre et qui voudraient un peuple juif laïcisé et débarrassé, en quelque sorte, entre guillemets, de sa spiritualité. Cette haine planétaire, elle nous renvoie à cette figure de la radicalité dans la différence. Et il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Il faut accepter qu'on est renvoyé ici à une réflexion très profonde sur les origines spirituelles du peuple juif, sur son présent spirituel et son avenir spirituel. Et c'est un des grands enjeux de cette fête de Shavuot, accepter la Torah dans ce qu'elle nous donne comme attachement radical à Dieu, à la Torah et à cette nature profondément spirituelle qui est celle du peuple juif. Voilà. Il me semble que c'est un point tout à fait fondamental. Je vous souhaite toutes et à tous, évidemment, Shabbat Shalom, Chag Sameach, et que nous méritions chacun, eh bien, de recevoir la Torah, de la prendre avec nous, de l'étudier, de la connaître. C'est la marque de notre éternité, c'est ce qui permet l'éternité de Am Israël.
Rav David Abendanan nous disait hier que c'est vrai qu'il y a la nuit d'études qui est connue comme notre coutume, que tout le monde connaît. Mais il disait, mais vous savez, en fait, Shavuot, il y a la coutume d'étudier la nuit. Quand on a un cadeau, on veut tout de suite le cadeau. Mais on veut tout de suite l'ouvrir, le voir, l'utiliser, le lire si c'est un livre. Mais en fait, c'est durant les 2 jours hein, qu'on étudie. Ça peut être très, c'est pareil. Aussi l'après-midi, le matin, et, ajoutait-il, parce que, évidemment, nous ne sommes pas tous des érudits comme vous, comme Rav David Abendanan. Il suffit de lire un livre. Hein. On peut tout trouver. Il y a beaucoup de très belles choses à lire et ça s'appelle, évidemment, si c'est dans le domaine de la Torah, ça s'appelle étudier la Torah. Rav Mordechai Biton, je vous remercie. Et Shabbat Shalom, Chag Sameach.
Shabbat Shalom, Chag Sameach. À la semaine prochaine.
Et nous sommes en ligne avec Rav Gué. Bonsoir Rav Gué, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom, et bientôt Chag Sameach.
Voilà, et on se dit déjà Chag Sameach. J'ai jamais compris à partir de quand on peut se dire Chag Sameach. Je crois que pour Shabbat, c'est à partir du jeudi, non?
En tout cas, le jeudi, on peut se le dire.
En vrai,
et Chag Sameach, c'est très bientôt, c'est dimanche soir.
Baruch Hashem.
Très bientôt.
Baruch Hashem. Et bien d'ailleurs, à l'occasion de cette fête, on lit le livre de Ruth. Et vous allez nous expliquer pourquoi. Pourquoi Ruth?
Il y a plusieurs explications. La première, la plus, on va dire, la plus classique, c'est parce que on parle de David Améler. Enfin, pas vraiment de David, on parle de l'ancêtre de David. Ruth s'est mariée avec Boaz. Elle a eu un fils, Obed, qui a un fils qui s'appelle Yishai et qui a eu un petit-fils. C'est David Améler. Le roi David est proche du roi David parce que justement, c'est à Shavuot, qui est tombé aussi un Shabbat, que David Améler est Niftar. Il est parti ce jour-là et donc on essaie de parler de ses origines. Donc ça, c'est une première explication. Et puis il y en a d'autres. Et c'est peut-être d'autres que nous allons retenir. Vous savez que Ruth est une personne qui n'était pas juive, qui était la fille du roi de Moab. Elle s'est mariée avec le fils de Naomi, qui avait fui Israël. Il s'était réfugié à Moab parce qu'il y avait une famine en Israël. Et le mari de Naomi, comme ses deux fils sont morts, donc il ne reste plus que Naomi et ses deux belles-filles, Orpa et Ruth. Et Ruth fait une démarche absolument exemplaire, parce qu'elle choisit de suivre sa belle-mère, qui ne lui propose rien de très, a priori, de très grand et de très beau, puisqu'il s'agit simplement de la suivre dans le dénuement le plus complet, alors que le papa de Ruth est un roi et qui lui propose de retrouver son palais. C'est une princesse qui va aller dans le dénuement le plus total, suivre sa belle-mère et qui va devoir glaner dans les champs tellement ils sont pauvres, ils n'ont aucun revenu. Et qui en plus n'est pas super bien accueillie a priori en Israël parce que leur départ s'est fait d'une façon... on va dire ils ont un peu fui leur responsabilité. Le mari de Naomi avait une responsabilité, il est parti et ça n'a pas trop plu aux gens qui habitaient à Bethléem parce qu'il avait de l'argent, il avait des moyens et il n'a pas voulu aider ses frères. Et donc elle n'est pas arrivée avec le tapis rouge, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc Ruth choisit de suivre sa belle-mère, Orpa ne va pas la suivre. Mais surtout Ruth, c'est l'exemplarité de la convertie, c'est la personne qui se convertit au judaïsme et absolument sans aucun intérêt, de façon totalement, on va dire, désintéressée, avec une volonté absolue de rejoindre le peuple juif, pour une seule chose aussi, pour continuer à perpétuer la mémoire de son mari, puisqu'elle va se marier avec un proche de son mari et qui va donner un fils. Et ce fils sera quelque part un peu dans notre tradition, nous appelons ça le Yiboum, une réincarnation de son mari. Donc elle est là pour se marier avec un monsieur qui a 80 ans, qui va mourir quelques heures plus tard après leur mariage, mais va naître de leur union quand même un fils, Oved, qui va être l'ancêtre de David Amelach, donc l'ancêtre du Mashiach. Donc c'est une histoire incroyable, une personne qui a une démarche totalement désintéressée, qui va vers l'inconnu, et qui finalement réussit à construire une des familles les plus prestigieuses d'Israël. Et d'un autre côté, on voit dans la paracha de Matan Torah, du don de la Torah, qui s'appelle Yitro, là aussi il s'agit d'un converti, d'une personne qui ne faisait pas partie de la famille d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est pas un Ben Israël. Il est de beau père de Moshe, mais il choisit de laisser tous les honneurs qu'il avait à Midian pour pouvoir rejoindre là aussi le peuple juif, lui aussi dans une démarche totalement désintéressée, en coupant tous les ponts derrière lui, et en donnant voilà, cet exemple du don de soi. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir lorsqu'on parle de Shavuot et du don de la Torah. Toute personne, en fait, est capable de recevoir la Torah, de l'apprendre. Elle est offerte à tout le monde, elle n'est pas réservée à une élite. Il faut pour cela être capable de faire beaucoup de sacrifices et d'efforts pour l'étudier, pour la pratiquer. Et c'est ce que la Torah veut nous dire. Il n'y a pas d'exigence préalable. La seule exigence, la seule demande que nous fait, c'est d'être capable d'avoir ce don de soi, ce dévouement total. Et à ce moment-là, la Torah nous est offerte, mais évidemment offerte grâce à ces sacrifices qui précèdent. Et Ruth, cet exemple-là de Ruth, qui va être l'ancêtre de David Amelach, donc de la royauté d'Israël, elle va vivre très longtemps, et elle va même siéger à côté de son fils, enfin son descendant Salomon, Shlomo. Et le roi Salomon dira d'elle, voici image et la route, l'origine, la matrice même de la royauté. Il reconnaîtra chez son aïeul le fait qu'elle est vraiment à l'origine même de la royauté. Et c'est une descendante, donc route de Moab, donc de Lot. Je vous rappelle que Lot a une relation avec ses deux filles. Et que c'est suite à cette relation avec ses deux filles qu'il a eue donc, avec l'une d'elles, Moab, donc une relation incestueuse, mais en même temps nécessaire, parce que les filles pensaient que le monde entier avait été détruit lorsqu'ils ont vu la destruction de Sodome et Gomorre. Et donc ils ont eu cette relation avec leur père, et de cette relation est née Moab, donc Ruth. Donc une démarche un petit peu plutôt étonnante pour faire venir le futur roi d'Israël. À tel point que nos sages ont dit, Matsati, David a dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, Echad Matsati, où est-ce que je l'ai trouvé? Bisdom, à Sodome. Donc à Sodome, lorsque Lot s'y trouve, et qu'il y part, il perd sa femme, puis après il se retrouve avec ses deux filles dans une grotte réfugiée après la destruction totale de la plaine, de la vallée de Sodome et Gomorre. Donc ils ont le sentiment d'être les seuls au monde, et c'est là qu'ils vont reconstruire, avoir cette relation et avoir cet enfant, qui va être à l'origine même de la royauté d'Israël. Alors évidemment, ça va nous paraître étonnant, ce détour dans des situations plus que on va dire, étonnantes et peu classiques. Mais c'est comme ça, le roi d'Israël ne viendra qu'à travers cette approche discrète et peu classique. Et d'un côté, la tribu de Yehuda, donc la grande tribu de Yehuda, officiellement l'héritier d'Abraham, Isaac et Jacob, le roi d'Israël, donc d'un côté du côté du père et du côté de la mère, donc Ruth, cette origine qui va poser beaucoup de problèmes à David Amelach, roi David. On lui contestera le droit d'être roi, le droit de se marier avec une fille d'origine juive, puisqu'il est, il est d'origine de Moabite, et que les hommes de Moab n'ont pas le droit de se marier avec une fille d'Israël, même s'ils se convertissent, mais les femmes ont le droit. Et donc c'est cette origine plus que compliquée qui va nous donner finalement la grande puissance de David Amelach. Il faudrait évidemment longuement expliquer pourquoi ce chemin tortueux pour arriver à quelque chose d'aussi brillant, ça demanderait je pense plus que quelques minutes avant Shabbat pour l'expliquer. Ce serait vraiment intéressant d'approfondir. Mais le fait est que Ruth, en choisissant le chemin en suivant sa belle-mère Naomi, prend la route, une route plus que incertaine. Elle risque d'avoir un refus même d'être mariée avec un juif d'origine juive. Il ne pouvait pas, elle ne le savait pas. Elle a pris le risque, elle a pris tous les risques en fait, pour suivre sa belle-mère qui l'a vraiment admirée et qui était une femme de grande valeur, Naomi. Et cet exemple, c'est un peu celle des peuples juifs lorsqu'il est sorti d'Égypte, puisque nous sommes sortis dans un désert avec très peu de nourriture et quelques matzot et pas d'eau. Et finalement, Dieu nous a accompagnés pendant 40 ans dans le désert, donc c'était aussi un chemin aventureux. Peut-être pour nous dire que, effectivement, la Torah, son étude, sa pratique, exige de l'homme un certain dévouement, une absence de calcul, et de se dire qu'on va y aller et puis on va trouver les solutions. C'est ce que nous faisons chaque Shabbat. Avant l'entrée de Shabbat, nous refusons tout rendez-vous, même si les rendez-vous, entre guillemets, très importants, nous sont proposés le samedi, le Shabbat. On doit refuser. Et c'était vrai l'année de la Shemitah, on en a parlé la semaine dernière, de passer un an sans le travail de la terre, etc. Tant et tant de restrictions et d'obligations qui nous voient un petit peu perplexes en disant « mais est-ce qu'on va y arriver ?» Et puis c'est ça le juif, c'est être capable de se jeter à l'eau, de se dire « on va y arriver » et puis on abat toujours vraiment les solutions pour y arriver. Puis finalement, les choses se font, bon an, mal an, bon mal an. Et on finit par y arriver si on a cette confiance en Dieu qui nous caractérise. Voilà pourquoi Ruth, qui est l'origine même de la royauté d'Israël, est une femme d'une valeur incroyable, qui a montré un dévouement total, un véritable désintéressement absolu. Elle aurait pu être une princesse dans le palais de son père, le roi Eglon, et elle a préféré choisir Naomi, un chemin de pauvreté, un chemin où elle a été au début humiliée, et finalement elle a retrouvé toute sa gloire aujourd'hui, puisqu'elle est la mère d'ancêtres de David et de Salomon, donc la grande lignée des rois d'Israël.
Elle a dit j'irai où tu iras, et je ferai ce que tu feras. Alors, j'ai dit ok, viens. Et vous êtes en train de nous expliquer, Raph, que c'est la base. C'est tout simplement ce qu'on demande à quelqu'un qui veut se convertir, si j'ai bien compris ce que vous venez de nous dire. Raph Gay, j'ai vu que vous souteniez une liste pour les élections au Congrès juif, au Congrès sioniste mondial. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de vous engager dans une élection?
Alors d'abord, il faut comprendre que cette élection concerne chacun d'entre nous. Et pourquoi nous sommes concernés? Parce que chaque 5 ans, il y a une élection dans cet organisme qu'on appelle l'organisme sioniste mondial, où plus de 500 élus du monde entier vont siéger. L'importance de cette élection, c'est justement les moyens financiers importants qui sont mis à disposition pour les juifs qui habitent en dehors d'Israël et les juifs qui font leur alia, et qui peuvent être évidemment orientés de différentes façons. Il se trouve qu'aujourd'hui, cet argent et ce pouvoir est plutôt concentré dans la main de libéraux, aux conservateurs. Donc aujourd'hui, un certain nombre de grands rabbinim en Israël nous ont demandé très clairement de nous engager pour faire en sorte que soient élus des représentants qui ont dans leur cœur et dans leurs actions les valeurs de la Torah bien ancrées. Donc se sont associés deux partis qui s'appellent Chass et Dégal la Torah Agudat Israël, se sont réunis pour faire une liste commune quand Israël Chai, pour que les représentants qui vont être élus suite à cette élection siègent dans cette organisation et fassent en sorte que d'abord des fonds ne soient pas allés vers des objectifs qui ne sont pas conformes à ce que veut la Torah, et qu'au contraire ces fonds permettent de développer l'éducation juive, de faciliter l'Aliyah en leur permettant à ceux qui le désirent d'aller en Israël, mais de le faire dans un cadre religieux. Donc tout simplement défendre les valeurs de la Torah, et c'est pour cela que nous vous engageons et nous demandons à chacun de s'inscrire, parce qu'il y a deux étapes. Il faut s'inscrire dans les listes électorales et puis après, il y aura une élection. Mais la fin de l'instruction sur les listes électorales, c'est le 5 juin, donc c'est très bientôt. Donc on demande à tout le monde de s'inscrire dans ces listes. Puis après, deuxième étape, il y aura l'élection proprement dite. Et ça coûte rien du tout, c'est 5 euros l'inscription, l'enregistrement, c'est très facile avec quelques clics. Et je pense qu'on peut, grâce à à ces moyens-là, faire beaucoup de choses pour développer la Torah et l'éducation juive en diaspora et en Israël.
Rav Gueh, donc le nom de votre parti, c'est Kol Israël Chai, si j'ai bien compris.
Exactement.
Et c'est pour l'organisation sioniste mondiale qui est présente dans le monde entier, donc les juifs partout, et donc les juifs français, ont la possibilité de voter pour cette élection qui ensuite est centrée sur Jérusalem. Rav Gueh, je vous remercie, et Shabbat Shalom.
Merci à vous, et Shabbat Shalom, et Chag Sameach. Très bonne fête de Shavuot.
Shem lo yivne bayit, shalom leivoy naboy, yim Hashem lo yishmarich, shav shokat shoy bay. Yim Hashem lo yivne bayit, shalom leivoy naboy, yim Hashem lo yishmarich, shav shokat shoy bay.